Merci Claudio. Je viens avec des salutations de l'église de Neuchâtel et des remerciements de nous prêter votre pasteur qui prêche à Neuchâtel aujourd'hui. Nous en sommes très très reconnaissants. C'est pour moi une joie et un privilège d'être avec vous ce matin pour vous parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle qui transforme nos vies et nos relations. Et voilà, je me réjouis de prendre ce temps avec vous. Mais évidemment, j'aime rappeler, je le fais régulièrement, que sans l'action du Saint-Esprit, nous n'allons pas plus avancer ce matin qu'un train électrique sans électricité. Nous avons besoin que l'Esprit agisse dans nos cœurs ce matin pour saisir ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Nous en sommes tous dépendants, vous et moi. Nous arrivons ce matin à la dernière prédication de cette série sur l'artisan de paix. Là, ça fait un petit moment qu'on voit ce sujet ensemble, par étapes. Et il nous aura fait cheminer dans une manière biblique de gérer les relations, et particulièrement les conflits petits ou grands. Et nous avons commencé en août 2021. C'est quand on a commencé à parler de ce sujet ensemble, par une présentation, et ensuite nous avons vu chaque année deux R. Deux R. Bon, pour ceux qui n'ont encore pas entendu, c'est un peu bizarre, deux R. Mais on va voir. Et en lisant votre Bible et en écoutant les prédications dimanche après dimanche, vous avez remarqué qu'il y a encore plein d'autres sujets qu'on n'a pas vus ensemble, que vous voyez, qui concernent les artisans de paix. Et vous allez encore en voir beaucoup par la suite dans toutes les prédications que vous allez entendre. Parce que nous avons besoin de continuer à grandir et progresser dans ce rôle de l'artisan de paix. C'est un sujet qui n'est jamais épuisé. Et les relations que nous vivons sont complexes et demandent de les vivre avec de la sagesse, de la bienveillance et chaque chose en son temps, sans laisser tomber par contre. Et n'oublions jamais une chose. Alors, si il y a une chose que je veux garder ce matin, c'est déjà ça. Bon, ça commence tôt, hein, déjà, de garder quelque chose. Mais la chose la plus importante, le fondement sur lequel reposent toutes nos actions, toutes nos relations selon Dieu, c'est quoi? L'Évangile. Ça commence à venir. L'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, c'est le poignet de la main de l'artisan de paix. Hein, si nous n'avons pas ce lien avec l'Évangile, nous allons faire beaucoup de dégâts, parce que nous n'allons pas nous appuyer sur le seul appui pour une vraie réconciliation. Une main qui n'est pas liée au corps est inutile. C'est donc notre R de base, la rédemption. Et là, 2 Corinthiens 5, 17 à 20, que vous avez peut-être déjà appris par cœur, ou que vous connaissez, nous dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés par lui, avec lui, pardon, par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, cette bonne nouvelle du salut accompli par notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ a des implications dans nos vies. Et l'Évangile, eh bien, nous allons y puiser dans cet Évangile. Nous allons le promouvoir, puisque c'est quelque chose de fabuleux. Nous sommes appelés d'ailleurs à en profiter, dans le sens noble du terme « profiter ». Le partager, le pratiquer et y persévérer. En fait, tous ces éléments sont directement liés à ces 5 actions que nous avons vues ensemble de la main de l'artisan de paix. Premièrement, la richesse du salut, de l'espérance qu'il contient, de la libération, de l'adoption, d'un Père parfait, de l'héritage éternel, de la restauration, de la joie du salut. Enfin, vous pouvez continuer. Tout ce que l'Évangile nous amène, tout cela et bien plus encore nous pousse à vivre le premier R. Vous vous souvenez? Rendre gloire à Dieu. Nous voulons lui rendre gloire, lui qui nous donne toutes choses, lui rendre gloire en toutes circonstances. Peut-être vous vous souvenez même du passage biblique sur lequel nous sommes appuyés. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, c'est les gestes, hein. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, hein, Corinthiens 10, 31. C'est vrai, donc chacun, cherchons à chaque instant de nos vies, même dans les moments de conflit, à nous rappeler iPad. iPad, vous vous souvenez? Je plais à Dieu. Hein, iPad. Et peut-être même que vous vous souvenez de comment rendre gloire à Dieu avec le petit mnémotechnique CROI, C-R-O-I, hein, qui est donc confiance, reconnaissance, obéissance, pas identification, imitation. Voilà, ça ressemble. Donc, rendre gloire à Dieu à chaque circonstance. Deuxièmement, lorsque nous réalisons que Dieu fait miséricorde à ceux qui confessent leur péché, notre propre justice est balayée. Nous admettons et nous nous repentons de nos fautes pour bénéficier de l'Évangile. C'est pourquoi, baigné dans l'habitude du premier de rendre gloire à Dieu, nous vivons en fait la première étape ou la première action d'amour lors d'un conflit basée sur Matthieu 7,5 qui est retirer la poutre. À Matthieu 7,5, vous vous souvenez, hein, hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil et ensuite tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. En fait, à chaque fois que je me repens, je saisis l'œuvre de Christ et je suis pardonné. C'est quand même fabuleux, ça. Chaque fois qu'on se repent, Dieu nous pardonne. Et c'est cette assurance qui nous pousse à confesser nos fautes. Si vous n'étiez pas sûr que Dieu pardonne, ben, est-ce que ça vaudrait la peine de demander pardon, de se repentir? Nous sommes certains que Dieu pardonne. Et voilà pourquoi nous voulons confesser nos fautes à Dieu et aux personnes lésées. Vous vous souvenez peut-être des 7 A de la repentance qui libère. Waouh, il y a tellement de choses là qui viennent. Hein, ben, c'est des éléments qu'on se rappelle un peu. Je les rappelle pour qu'on les ait un petit peu en tête. Simplement aller vers les personnes concernées, abandonner les 6 mais peut-être, avouer ce que l'on a fait spécifiquement, admettre que ça fait du mal aux autres, assumer les conséquences, améliorer et appeler au pardon. Voilà les 7 A. Je ne refais pas tout l'enseignement, on l'a déjà vu, mais je le rappelle, que ça nous vienne avec. Et troisièmement, la troisième R, quand nous acceptons et que nous bénéficions de la manière dont l'Évangile nous montre et sanctionne notre péché, nous serons incités à corriger et à restaurer dans la douceur ceux qui ont mal agi, en désirant qu'ils bénéficient aussi de l'Évangile de Jésus-Christ. Le troisième R, c'est redresser avec douceur. Basé sur Galates 6, 1, hein, frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, reprenez-le avec un esprit de douceur. Hein, prends garde à toi-même de peur que toi-même, tu ne sois tenté. Donc lorsque je vois quelqu'un qui pêche, que ce soit contre moi ou non, qu'est-ce que je désire? Qu'il puisse bénéficier de l'œuvre de Jésus-Christ et être délivré du péché. Je ne vais donc pas avec une attitude de vengeance, avec un bâton, mais plutôt avec une attitude de réconciliation, avec le pardon. Donc ça, c'est le troisième R. Ensuite, le quatrième, qui va avec en fait, parce qu'on l'a déjà préparé, on le prend avec. Lorsque nous devenons conscients de la manière dont Dieu nous pardonne, notre cœur est rempli de reconnaissance envers celui qui pourvoit au pardon pour la reconstruction. Et ce que nous avons reçu, eh bien, nous le donnons par la foi. Heureux d'être libérés du poids du non-pardon et joyeux d'apporter la délivrance de la dette à notre offenseur. Voilà pourquoi nous voulons reconstruire les relations par le pardon que nous avons préparé par amour, un pardon que l'on va chercher auprès de Dieu. On avait vu ensemble, hein, le pardon, il est pas quelque part ici, il est quelque part auprès du Seigneur qu'on peut aller chercher pour le donner. Et donc, c'est reconstruire par le pardon, basé sur Éphésiens 4, 32. Un passage qui, chaque fois, je trouve énorme, hein, puisqu'il est dit « Soyez bons les uns vers les autres, hein, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Waouh ! Mais pour pouvoir faire grâce comme Dieu a fait grâce, il faut déjà comprendre quel est le pardon que lui nous offre. Avec les 4 engagements qu'il prend. Vous vous souvenez ces 4 engagements? Quand le péché est pardonné, il n'est plus dans sa tête. Il choisit de ne plus y penser. Hein, pour nous, eh bien, ça sera de purifier nos pensées. Deuxièmement, le péché pardonné n'est plus placé en présence de l'offenseur. Dieu ne vient pas vous leur dire, dis donc, que tu te souviens, c'est pardonné. Eh bien, pour nous, nous allons aussi avoir des paroles bienveillantes. Le péché pardonné n'est pas exposé aux autres. Il n'y a pas des pancartes qui sont partout pour dire, ben voilà le péché de tel et tel. Non, ils ont été effacés à la croix. Colossiens le dit clairement. Donc nous, imitant Dieu, ne parlerons pas du péché comme étant non pardonné. Et nous le ferons d'une manière pleine de grâce. Et le quatrième engagement de Dieu, c'est que le péché pardonné ne vient pas ternir la relation. On a vu David qui avait péché, et plus tard, quand il fut Absalom, on voit une prière où il y a une intimité avec Dieu qui est extraordinaire. C'est après qu'il ait péché. Parce que quand Dieu a pardonné, cette intimité a été retrouvée. Eh bien, nous voulons aussi imiter Dieu en ouvrant la porte à la restauration des relations. La confiance prend du temps, hein, faut aussi être conscient de cela, mais la porte s'ouvre. Donc le pardon, c'est la porte d'entrée dans le chemin de la restauration des relations. Et là, je vous avais dit quelque chose qui aussi est très important et qui est marquant. Notre façon de pardonner aux autres démontre ce que nous avons compris du pardon de Dieu envers nous. C'est pour ça que je vous encourage, non pas premièrement à chercher à savoir comment pardonner aux autres, mais plutôt à aller voir comment Dieu vous a pardonné. C'est extraordinaire. Et cinquième élément, la persévérance de Dieu et son action bienveillante, sans aucune action mauvaise à notre égard, hein, notre exemple. Tant qu'il y a de la vie, cherchons à appliquer l'évangile. On dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir aussi parfois, mais l'espoir, notre espérance, c'est l'évangile. Eh bien, nous croyons qu'à Dieu, rien n'est impossible. Voilà pourquoi nous continuons à vouloir vivre l'évangile, même si parfois c'est difficile. Nous sommes appelés à rester fidèles dans notre attitude de recherche, de réconciliation. C'est pourquoi nous voulons vivre la deuxième habitude qui entoure les actions d'amour pour la résolution de conflits. Et cette habitude est basée sur Romains 12, 21. Nous avions vu ça la dernière fois. Romains 12, 21. « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Vous vous rappelez, Romains 12, c'est tout un chapitre, enfin, depuis le verset 9, qui est juste extraordinaire par rapport à l'amour. On a vu la dernière fois qu'il s'agissait d'être rempli de miséricorde CPP. C'est quoi cette miséricorde CPP, vous vous souvenez? CPP. Pour compassion, pardon, patience. La miséricorde, compassion, pardon, patience. Et mettre en pratique ce texte de Romains 9, 12, pardon, 12 de 9 à 21, triompher du mal par le bien. On pourrait dire que notre seule vengeance, je la mets entre guillemets le terme vengeance, que nous sommes appelés à vivre, c'est d'aimer plus, en fait. C'est l'arme suprême que Dieu nous donne aussi de vivre. Voilà, on est revenu dans le sujet, on a un peu tout ça en tête. Et comment vivre cette recherche continuelle de réconciliation, c'est-à-dire être en paix avec tout le monde? Ça, c'est l'idée aussi, rechercher la réconciliation, c'est de pouvoir se dire, je m'assieds, je réfléchis à ceux qui sont autour de moi. On commence par le cercle le plus proche, puis ensuite on peut aller plus loin, puis dire, est-ce que je suis réconcilié avec toutes ces personnes? Parce que c'est quelque chose qui se vit tout le temps, parce que on est dans une situation où on est bien, puis après, voilà un conflit. Et je vous encourage, les petits conflits, c'est ceux-là qu'il faut régler. Les petites choses. Parce que les grands, en fait, sont remplis de petits. Donc, comment dialoguer lorsqu'un conflit se présente? Et c'est ce qu'on va un petit peu étudier aujourd'hui. Comme d'habitude, nous aurons une illustration qui développera un peu cela, une histoire vraie. Ensuite, nous réfléchirons à ce que signifie le dialogue de réconciliation. Et nous prendrons le temps, une pause, si vous voulez, pour parler d'un principe de négociation biblique. Et si je dis pause, c'est parce que c'est l'acronyme pause qui sera utilisé. Et nous terminerons par l'engagement de l'artisan de paix qui va clore toute cette série. C'est le menu, ça va? Enfin, on a déjà bien mangé, puis je vous annonce le menu, c'est pas mal. Hein, bon voilà, on est dedans. On va commencer par l'histoire, pour illustrer un conflit où le dialogue de réconciliation a été utilisé d'une manière qui a permis une fin encourageante. C'est une histoire vraie. Il faut savoir que c'est une situation tendue, une situation de guerre. Je vous dis. Le roi Nebuchadnezzar ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de choisir parmi les Israélites issus de la lignée royale et des familles nobles quelques jeunes gens sans tare physique et de belle apparence. Ils devaient être doués de toutes sortes de talents, posséder de larges connaissances, être bien vigoureux et capables d'apprendre rapidement. Ils devaient entrer dans les services du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi ordonna qu'on leur donne chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont ils buvaient lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, au bout desquels ils entreraient au service personnel du roi. Parmi ceux qui furent sélectionnés, de la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Béchatsar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abednego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre rituellement impur en consommant les mets du roi et en buvant le même vin que lui. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda de trouver faveur et compréhension auprès du chef du personnel. Mais celui-ci lui dit : « Je crains le roi, mon seigneur, qui a prescrit que vous devez manger et boire. » Et s'il devait trouver que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres gens de votre âge, il m'en rendrait responsable et vous mettriez ma vie en danger. Alors Daniel parla à nouveau à l'intendant, auquel le chef du personnel avait confié le soin de lui-même, de Anania, de Michaël, d'Azaria. Et lui proposa ceci. Fais donc un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. L'intendant accepta leur proposition et fit sur eux un essai pendant 10 jours. Et au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine, qu'ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, l'intendant supprima leur repas, les mets et le vin, et qui leur étaient destinés, et leur fit servir seulement des légumes. Une histoire vraie! Où on voit un langage ou un dialogue de négociation biblique. Daniel nous donne ici un exemple de dialogue, de réconciliation. Il ne cherche pas à gagner quelque chose, mais que chacun vive paisiblement. Il utilise un principe biblique de la négociation pose. Il prépare l'intendant à recevoir sa demande. Il affirme qu'il recherche le bien. Il use de compréhension pour ce qui était en jeu et il donne une solution. Il solutionne en accord avec l'intendant et en évaluant ce qui est mis en place. Réfléchons quelques instants d'abord à qu'est-ce que le dialogue. Là, il y a mes mots qui ne vont pas tout à fait dans le bon sens, je vois. Peut-être que vous avez entendu. Donc, on va réfléchir quelques instants pour savoir qu'est-ce que le dialogue de réconciliation. Lors d'un conflit, alors désolé pour ceux qui n'en ont pas, imaginez, pour les autres, ben vous comprenez. La manière de dialoguer est malheureusement souvent un dialogue de compétition. Ça vous dit quelque chose? Enfin, pour ceux qui ont déjà eu des conflits, ça vous dit sûrement quelque chose. Hein? Souvent, quand on a un conflit, malheureusement, nous entrons dans un dialogue de compétition. Qui aura raison? Qui va gagner? Qui sera le plus fort? C'est tellement centré sur nous. Mais ce n'est pas une attitude enseignée par la parole de Dieu qui nous invite à un dialogue de réconciliation. Un dialogue de réconciliation. La Bible ne dit pas « il n'y aura pas de conflit ». C'est plutôt « lors des conflits, utilisons le dialogue de réconciliation ». Une négociation coopérante, remplie de miséricorde, qui considère aussi les intérêts de l'autre. Pas qui est le plus fort ici, mais quelle sera la meilleure manière de régler ce problème pour tous. Et ainsi, ce n'est plus centré sur nous, mais centré sur ce que Dieu veut pour tous. J'aimerais vous lire quelques textes de la parole de Dieu qui nous aident à entrer dans cette compréhension. Que vous sachiez que ce n'est pas Tim qui vous dit ça. La parole de Dieu nous donne des éléments qui sont sous-jacents. Matthieu 22, 39, vous le connaissez. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Ou encore dans Philippiens 2, on a entendu les versets 5 et suivants tout à l'heure, merci, c'était parfait. Mais là, on va lire les versets 3 et 4, juste avant. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je pourrais continuer. Pour se remplir de la parole, pour avoir ces éléments, ces attitudes. Ces textes nous parlent de notre attitude, de ne pas être dans la compétition, mais dans la réconciliation, la recherche d'un juste arrangement qui permettra à chaque partie de prendre ses responsabilités et de bénéficier des réparations possibles. Jésus d'ailleurs va motiver à chercher la réconciliation. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte dans Matthieu 5, où il dit, donc c'est Jésus qui dit, hein, « Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. » En fait, c'est l'encouragement à une négociation de coopération, ne cherchant pas premièrement à simplement se faire justice et tirer le maximum de la situation. Non, de régler l'affaire le plus juste possible, hein. On n'est pas en train d'enlever la notion de justice, mais en étant même prêt à perdre un peu quelque chose. Parce que notre but, c'est d'être réconcilié. Et par rapport à ce sujet-là, le temps ne me permet pas, vous avez déjà remarqué, on a déjà beaucoup de choses. Hein. Mais vous pouvez méditer à 1 Corinthiens 6, 1 à 8, par rapport à cette notion-là. Mais je souhaite ce matin vraiment prendre du temps pour parler du principe de négociation biblique pause. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Point suivant. Un principe de négociation biblique pause. Alors pour nous aider à retenir ce principe, nous allons faire une pause. Parce que trop souvent, nous voulons régler les situations à vitesse TGV pour passer le plus vite possible à autre chose. Ça vous arrive aussi ? Il y a un conflit, ok, rapidos, on passe à autre chose. Et vous savez ce qui se passe ? On ne passe jamais à autre chose parce que c'est jamais réglé. Prenons donc une pause. Ou plutôt, utilisons l'acronyme PAUSE qui nous permet de résumer une approche biblique de la négociation afin de vivre le dialogue de réconciliation. Et c'est justement mettre en pratique ce texte de Proverbe 14, 22 qu'on a entendu tout à l'heure, hein. Il était dit « Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bienveillance et vérité. » Faire une pause, P-A-U-S-E comme on le verra ensemble, c'est méditer le bien pour agir avec bienveillance et vérité. Alors avec Daniel, on a déjà vu un aperçu rapide de ces P-A-U-S-E, si vous avez déjà été attentif. Mais je vais vous présenter maintenant la signification de l'acronyme. On va un tout petit peu s'arrêter sur ces quelques points avec une femme exceptionnelle. Donc la signification de l'acronyme, le P pour prier ou préparer. Prier, préparer, ça c'est le P. Et dans ce temps de préparation, eh bien on rassemble les fêtes, on cherche conseil, on réfléchit à diverses options. Un temps important. Prier. Préparer dans la prière, si vous voulez. Le A, c'est affirmer les relations. Il est important, lorsque l'on veut régler quelque chose avec quelqu'un, d'indiquer l'importance de la valeur de la relation, de la personne impliquée, de manifester le respect et l'attention. Et d'y réfléchir avant. Après le A, le U. User d'égard pour les intérêts de chacun. Identifier les intérêts, les préoccupations, les besoins, les limites et les craintes peut-être de chacun, pour qu'on puisse savoir comment on peut ensemble arriver à une solution. Et le S, eh ben, ça va avec solution. Hein. Solutionner de façon créative et satisfaisante. C'est réfléchir pour amener quelque chose qu'ensuite ensemble on pourra mettre en place. Et le E, de pause, évaluer objectivement et raisonnablement. Et certains disent même sans argumenter. Le but, ce n'est pas d'argumenter, c'est juste on évalue. Voilà, ces étapes nous seront très utiles si nous devons dialoguer pour résoudre un problème. Que ce soit un conflit ouvert ou un conflit sous-jacent qu'on voit arriver. Abigail, on va en parler hein, maintenant, ben, elle n'était peut-être pas directement dans le conflit, mais elle le voyait arriver très clairement. Elle a utilisé ce principe Et nous allons le voir maintenant ensemble. Donc si vous avez vos Bibles et les avoir ouvertes dans 1 Samuel 25, c'est une très bonne idée. Enfin, je vais y faire référence régulièrement sans forcément tout lire les textes. Commençons par le P de pause. Prier et préparer. Le P doit nous rappeler que la première préparation est la prière. Alors, il n'est pas parlé spécifiquement de prière pour Daniel ou pour Abigail, c'est vrai, j'en conviens. Mais leur vie démontre leur consécration, leur confiance en Dieu, qui ne peut être vécue que lorsque une vie de prière est existante. Abigail écoute le rapport des serviteurs, elle cherche à comprendre les faits, elle prépare des présents, elle prépare ce qu'elle va dire à David. En fait, les paroles qu'elle lui dira, comme nous le verrons tout à l'heure, sont réfléchies. Elle ne dit pas juste ce qui lui passe par la tête sur le moment. Or, comprenez-moi bien, je crois que le Saint-Esprit peut nous inspirer au moment donné pour répondre et dire des choses. C'est vrai. Mais si nous avons le temps de préparer et que nous ne le faisons pas, je me demande si la paresse appelle vraiment la bénédiction. Abigail n'est ni paresseuse, ni une vie de la procrastination. Elle se prépare et elle va à la rencontre de David. Et la préparation n'est pas à négliger et de nombreux aspects peuvent être importants. Je vous en liste quelques-uns pour qu'on réfléchisse à qu'est-ce que c'est que cette préparation dans la prière. Or, dans la prière, demander l'humilité, le discernement, la sagesse, c'est tellement important. Pas croire je suis sage, je sais tout. Après, on ne prie pas, pas besoin. Non, je veux aller vers Dieu, que lui me guide. Une autre chose, c'est s'informer des faits en faisant des recherches nécessaires. Dans certains conflits, il y a des parts d'ombre qu'on ne connaît pas, peut-être qu'il vaut mieux connaître avant de commencer à entrer dans une situation où on négocie, on discute, pour que ça soit clair. S'informer des faits, identifier les questions, les intérêts, en réfléchissant aux causes réelles des conflits, des intérêts en jeu. Quatrième élément, c'est étudier la Bible pour identifier clairement les principes bibliques en lien avec la situation. Parce qu'en fait, dans chaque situation, il y a des principes bibliques que l'on peut aller voir et il est bon de les connaître afin de les mettre en pratique correctement. Un autre aspect, c'est réfléchir à des solutions raisonnables pour pouvoir, et puis ensuite déjà préparer à comment expliquer le bénéfice aussi pour l'autre. Ça se prépare, ces choses-là. Réfléchir aux réactions possibles. Vous dites, mais si je dis ça, comment est-ce que la personne peut réagir? Ah, elle peut réagir comme ça. Alors, quand elle réagit comme ça, comment est-ce que moi je peux répondre alors? Si vous ne préparez pas, vous allez vous être dans beaucoup de situations, vous êtes... Et puis ça s'arrête. C'est dommage. Réfléchir aux réactions possibles et aux réponses adéquates à donner. Prévoir une solution alternative si, par exemple, on voit que ça ne peut pas être dans la direction qu'on pensait. Voilà, est-ce qu'on a autre chose qu'on pourrait prendre ou bien simplement... trouver un autre moment ou trouver d'autres personnes qui aident, etc. Choisir le moment, le lieu, prévoir le temps approprié pour en parler, en considérant la possibilité et la référence de chacun. Il y a des conflits, en 5 minutes c'est réglé. Puis il y a des conflits, il faut 2-3 heures. Puis il ne faut pas se dire qu'en 5 minutes ça sera réglé alors qu'il en faut 2-3 heures. C'est des choses à réfléchir avant. Et ça, c'est des éléments que l'on va préparer dans la prière. Planifier la manière de commencer afin d'établir un ton positif dès le début. Ça, c'est un élément important aussi. Quand vous arrivez quelque part, quelqu'un vous accueille, ses premières paroles vont faire une grande différence. La même chose par rapport à ce que vous pourriez dire. Et chercher conseil sur la manière de vivre ces moments de la meilleure manière possible. Je dois vous dire ce matin que, en voyant tout ça, je suis un peu frustré. J'aurais voulu vous montrer tous les passages bibliques qui nous encouragent à faire tout ça. Je ne peux malheureusement pas le faire avec le temps que j'ai, mais j'espère que ça peut vous être utile pour que vous puissiez aussi encore faire cette démarche. Mais préparer. Quand on veut régler un conflit, quand on veut entrer dans un dialogue de réconciliation, on prépare. On n'y va pas à la one again, puis on verra bien. Dans notre réflexion de la situation, nous cherchons à être guidés par les 5 R de l'artisan de paix. Et nous prions que Dieu nous donne de vivre dans cet état d'esprit. Et si dans la grâce de Dieu, les deux qui sont en conflit ont ce même état d'esprit, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se rejoindre dans cet état d'esprit. Et je suis sûr que Dieu permet ensuite une réconciliation. Parce que je crois que Dieu peut tout faire. Je n'ai pas dit que c'était facile et que c'était dans la seconde. Mais Dieu peut tout faire. Le P de pause, après le P, il y a le A. Après se préparer, il y a affirmer les relations. Alors Abigail, on vient toujours à Abigail d'abord. Quand elle arrive vers David, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette à ses pieds. Bon, on va peut-être pas se jeter aux pieds des personnes, hein, ça c'est évident. Mais c'est une manifestation simplement de respect. Hein? Dans ce but de dire, ben, on place les autres au-dessus de nous-mêmes. Ça c'est notre attitude, notre manière de le vivre. Hein? Et là, ben, elle le fait très clairement. Et contrairement à Nabal qui méprisait David, hein, on aurait pu étudier ce que ça signifiait. Mais là, on est vers Abigail, elle lui parle avec respect, avec politesse. Elle sait qu'un tort lui a été fait. Elle n'attend pas qu'il parle pour prendre l'initiative, en fait. Elle explique la situation, ne cherche pas d'excuses, et elle connaît David, d'ailleurs. Elle le connaît. Je ne sais pas si vous avez vu au verset 29, par exemple, elle parle d'une fronde. Quand on parle d'une fronde à David, franchement, ça n'a aucun rapport. En Israël, quand on parle d'une fronde à David, c'était après la situation avec Goliath, hein, cette histoire-là, ben, on pense à la délivrance que Dieu a opérée au travers de David par Goliath pour vaincre un ennemi commun. Les propres paroles d'Abigail démontrent clairement qu'elle accorde de l'importance et de la valeur à sa relation avec David. Elle lui porte attention et respect. Elle lui montre un intérêt authentique en désirant même qu'il n'ait pas de mauvaise conscience. On a lu tout à l'heure, on verra encore après, on va relire quelques éléments, mais se rendre compte, mais si vous lisez tout ce qu'elle désire pour lui, c'est qu'elle veut qu'elle puisse être un homme sans reproche devant l'Éternel. C'est son désir. Et je nous encourage dans les moments de dialogue à ne pas avoir peur de dire à l'autre personne avec qui on va régler la chose que la relation est importante. Elle est importante pour nous. Je ne sais pas si dans vos relations de couple, vous avez des conflits. Ça m'arrive, par la grâce de Dieu, ils sont tous réglés, je suis très reconnaissant, mais ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe quand il y en a un? Il y en a eu un hier. Bon, ben, on discute, puis on dit, ben, moi j'étais en plein dedans, donc ça m'a aussi aidé à utiliser tout ça. De dire, mais notre relation, elle est importante. Maintenant, c'est vrai que cette situation, on doit la régler, c'est pas facile, mais la relation, pour moi, elle est importante. Tu es importante pour moi, voyez? Et ça va nous aider à nous dire, maintenant, le but, ce n'est pas d'attaquer la personne, c'est de régler le problème, le conflit, la situation. Et de dire aussi qu'on cherche à trouver un accord et qu'on prendra le temps nécessaire. Ce n'est pas nous qui sommes les maîtres à bord, nous sommes en fait des participants avec l'autre personne. Alors comment pouvons-nous affirmer nos relations? Je vais vous donner quelques suggestions, des éléments qui peuvent faire partie de l'affirmation de la relation. Une première chose que vous pouvez faire lorsque vous rencontrez quelqu'un ou que vous parlez avec quelqu'un pour régler la situation, c'est peut-être déjà de lui dire merci de vouloir s'arrêter pour régler la chose. C'est déjà une manière de dire « mais je suis reconnaissant qu'on puisse maintenant chercher à régler cette situation ». De communiquer d'une manière courtoise. On a lu avant Éphésiens 4, 29, c'est un passage qu'on part dans nos têtes, hein, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles pour l'édification, etc. Hein? Ensuite, se soucier de la situation personnelle de l'autre. On pourrait même lui demander des nouvelles de ce que la personne vit en dehors de ce que vous vivez ensemble. Parce que si vous dites juste le comment ça va, la personne va vous parler en lien avec ce que vous vivez ensemble. C'est compréhensible. Je veux dire, mais ce désir de se soucier de sa personne vie en dehors de ce qu'on vit avec l'autre. Nous aussi, on n'est pas juste centré là-dessus, parce qu'elle est importante, cette personne. Et si l'autre personne a reçu une autorité, eh bien, lui manifester que nous voulons lui être soumis. C'est vrai que si la personne ne vit pas ce que Dieu nous demande, eh bien, nous allons lui dire aussi que nous voulons continuer à être soumis, mais à l'autorité supérieure. Notre but, c'est jamais d'être insoumis à quelqu'un. Mais si cette personne nous pousse à être insoumis à l'autorité supérieure, ben on va lui dire, écoute, nous, on va continuer à être soumis, mais pas à toi, parce que tu n'es pas soumis à l'autorité supérieure. Ma motivation, ce n'est pas d'être insoumis, c'est d'être soumis à Dieu. Voilà, par exemple, ou aussi chercher à comprendre avec sincérité. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous pose des questions, puis vous avez l'impression qu'il n'a rien à faire. Vous vous sentez comment? Joyeux, heureux, compris. Et non. Ben voilà, faites aux autres ce que vous voulez qu'on aimerait qu'on fasse pour vous. Traitez aussi le pécheur avec miséricorde. Hein, pas en disant que le péché n'est pas grave, on l'a vu ensemble, mais en saisissant la grâce de Dieu qui est supérieure, en demandant des réparations possibles, c'est vrai, même quand on vient de vous faire du tort, pardonner, c'est pas dire qu'il n'y aura pas de réparation, mais c'est le faire d'une manière qui soit adéquate. Là, on revient au R3, hein, redresser avec douceur. Ou encore permettre que l'autre puisse être rétabli. Ça, c'est un élément important aussi. Notre but, c'est que le conflit puisse être réglé, que la personne puisse être rétablie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à éviter de donner plein de détails compromettants. Le but, c'est que la personne puisse être rétablie. Ce n'est pas de cacher des choses, mais ce n'est pas non plus de... d'étaler, voilà, de tout étaler cela. Et puis, considérer les intérêts des autres et indiquer le désir qu'ils en fassent de même, mais sans mettre de pression. C'est tous des moyens pour affirmer la relation. Elle est importante pour nous, cette relation. Et on peut déjà parler aussi du résultat. Nous désirons ce résultat. Que le conflit soit réglé, que la relation soit rétablie. Alors, petit à petit, parfois, hein, quand il y a des blessures plus graves, ça prend plus de temps. On dit, ça prendra du temps, mais je veux aller dans ce chemin-là. L'affirmation de la relation, d'ailleurs, permet souvent de commencer à déminer un terrain et à faire comprendre à l'autre que nous cherchons le bien. Et si les deux le font, on va aller dans une bonne direction. Après le A de pause, vient le U. User d'égard pour les intérêts de chacun. Or, Abigail, on revient à elle, a compris l'intérêt de David d'avoir une conduite irréprochable et une bonne réputation pour ce que Dieu avait préparé pour lui. Elle savait qu'il allait régner sur Israël. Tout Israël le savait, même Nabal, alors qu'il dit qu'il ne le connaît pas. Comme j'ai dit, ça c'est du mépris. Et vous savez que, si on prend le contexte de cette histoire ici, Saül, il venait de massacrer toutes les personnes à Nob parce que des personnes avaient donné à manger à David. Ce n'était pas le moment d'aller massacrer ceux qui n'avaient pas voulu lui donner à manger. Et en plus, cet épisode de Nabal avec David se trouve en sandwich entre deux situations assez particulières. L'une où on voit un David qui est dans une grotte et qui pourrait tuer son ennemi et qui ne le fait pas. Et juste après l'histoire de Nabal, on voit un David qui est dans le camp juste à côté de celui qui est son ennemi qui pourrait tuer et qui ne le fait pas. Il a quelque part triomphé du mal par le bien dans ces deux cas. C'est donc pas dans l'intérêt de David que dans ce cas ici, de se laisser vaincre par le mal devant Nabal. Je ne peux pas tout relire, mais j'aimerais quand même lire quelques versets de ce passage de 1 Samuel 25 pour qu'on puisse saisir que Abigail a saisi ces éléments-là. Hein? Elle ne dit pas avec ses mots, mais on le comprend. 1 Samuel 25, à partir du verset 28, je lis. Donc Abigail parle à David, « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. Si un homme se dresse, te poursuit et en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera gardée à l'abri parmi les vivants, auprès de l'Éternel ton Dieu. Mais l'âme de tes ennemis, il la lancera au loin comme avec une fronde. » Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il a promis et qu'il t'aura établi comme conducteur d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni mauvaise conscience d'avoir répandu le sang inutilement et d'avoir voulu assurer lui-même son salut. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. D'ailleurs, David va confirmer, si on va après au verset 33, qu'il a compris que Abigail voulait son bien. Il dit, là, béni soit ton bon sens et béni sois-tu qui m'a empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. User d'égard pour l'intérêt de chacun. Elle l'a fait, il l'a entendu, il l'a reçu. Identifier l'intérêt en jeu pour l'autre et pour nous-mêmes, on parle aussi des intérêts de chacun. Ce n'est pas le but, je disparais pour l'autre. Dans un conflit, ce n'est pas je disparais pour l'autre. Le fait de voir l'autre plus élevé que nous, ce n'est pas dire moi je suis rien, pas du tout. C'est entrer dans une attitude où nous cherchons le bien, mais où nous existons aussi, nous faisons partie de la situation. Et nous cherchons à rendre gloire à Dieu, là où Dieu nous place. Donc il est important d'identifier le plus clairement possible les préoccupations, les intérêts, les besoins, les limites ou les craintes de chacun. C'est vrai, c'est important. En vérifiant que ce soit des réalités. Il ne faut pas non plus que ce soit des choses juste qu'on imagine. C'est pour ça que c'est important après là d'en parler. Hein, de parler des préoccupations, des intérêts, des besoins, des limites et des craintes de chacun. Pour ensuite passer au S de pause. On a déjà fait le P, préparer. Le A, affirmer la relation. U, user d'égard, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour arriver au S, solutionner de façon créative et satisfaisante. Qu'a fait Abigaël ? Abigaël a apporté de la nourriture à David qu'il était venu chercher auprès de Nabal. Elle l'invite à recevoir ce présent, à renoncer au mal. Et dans cette situation urgente et grave, eh bien, elle n'a pas apporté d'autres propositions à David, tout en cherchant à correspondre au mieux aux besoins du moment. Et quand elle est arrivée vers David, elle n'a pas imposé sa solution à David. Elle le lui a expliqué. Et c'était à lui ensuite de le prendre ou pas. C'était ensemble que c'était ensuite à régler. Et la créativité à cette étape est importante, par la créativité, pour trouver des solutions. Et il est bon aussi de voir comment il est possible de permettre à chacun de vivre paisiblement après que ça soit réglé. Pensez à l'après aussi. L'histoire de Daniel qu'on a lue tout à l'heure nous montre une situation où une solution a été préparée, proposée avec des légumes et de l'eau à tester pendant 10 jours. Voilà. Une solution qui a été proposée, qui a été testée et que Dieu a bénie. Et une fois qu'une solution est choisie, après le S de pause, il est utile de fixer comment cela sera évalué et indiquer que tout est réglé. Ça, c'est aussi génial. À un moment donné, quand on peut dire le conflit est terminé. Terminé. C'est du passé. On peut le regarder avec des yeux de la grâce de Dieu pour dire qu'on a pu apprendre. Il y a peut-être beaucoup ou moins de souffrance, ça dépend des situations. Mais c'est terminé, réglé. Et pour cela, il y a besoin d'évaluer. Si on n'évalue pas, on ne peut pas savoir quand c'est terminé. Évaluer les options objectivement et raisonnablement. Alors, on voit que Abigail, c'est vrai, n'a pas dit « David, maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse une évaluation ensemble, etc. » Mais en fait, David l'a faite. Non, verset 32, si on regarde... David dit à Abigaël, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, c'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. » Attends, mais il venait de dire que c'était Abigaël. Mais Dieu utilise des moyens et c'est beau de les reconnaître. « C'est lui qui m'a empêché de te faire du mal si tu n'étais pas... Si tu n'étais vite venu au devant de moi, d'ici la lumière du matin, il ne serait pas resté le moindre de ceux de Nabal. » David prit des mains d'Abigaël ce qu'elle avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix, je t'ai favorablement accueilli. » Conflit clos. Ça permet l'évaluation, c'est réglé. Et c'est vrai qu'il y a même une épilogue dans cette histoire ici. Vous connaissez sûrement la suite au verset 39. David apprit que Nabal était mort et dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans le déshonneur que m'avait infligé Nabal et qui a tenu son serviteur à l'écart de la méchanceté. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaël de la prendre pour femme. » Quand est-ce qu'un conflit est terminé ? Il est bon de pouvoir l'évaluer. Vous savez, dans les milieux professionnels, on utilise un acronyme pour savoir comment fixer des objectifs et les vérifier, pour que les objectifs soient intelligents. Or, comme ici, on aime bien plus parler français, mais l'anglais, on dit qu'il doit être smart. Voilà. Eh bien, pourquoi ? Parce que c'est un acronyme de nouveau, hein, pour avoir un objectif qui soit spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel. Ce n'est pas le lieu pour vous expliquer tout cela ici, mais c'est pour vous dire qu'il y a des outils que l'on peut utiliser pour justement vérifier et dire maintenant c'est fait. Et si quelqu'un revient et dit « mais puis c'est ce conflit », c'est réglé. On a fait l'évaluation, c'est réglé. Est-ce qu'il y en a un nouveau maintenant qui est en place ? Bon, ben on va traiter ce nouveau conflit qui s'est mis en place. Mais celui-là, il est réglé. Alors comme Abigail a utilisé le principe « pause », alors même si elle n'avait pas P-A-U-S-E dans sa tête et qu'elle avait les significations de ses lettres, hein, évidemment, enfin je ne sais pas, moi je n'étais pas là, mais je ne pense pas. Elle avait l'attitude en fait qui était derrière ces éléments. Une attitude d'un dialogue de réconciliation. Le P, prier, préparer, a affirmé les relations, usé d'égard pour les intérêts de chacun, ait solutionné de façon créative et satisfaisante et évalué les options objectivement et raisonnablement. Voilà, c'était le dernier outil que je voulais vous présenter en lien avec ce cinquième R, que je pense qu'il peut vraiment nous aider pour rechercher la réconciliation ensemble. Et j'aimerais terminer non seulement cette prédication, mais terminer cette série sur l'artisan de paix par, en fait, la lecture de l'engagement de l'artisan de paix. Ça vous permettra d'avoir un peu une vue d'ensemble, ça vous permettra de vous dire « Ah ben tiens, ça j'aimerais le vivre », ça nous permettra aussi ensuite de nous remettre à Dieu pour nous aider à vivre ce qu'il nous enseigne dans sa parole. Si jamais vous avez pris un petit papier vert à l'entrée, à l'arrière, vous avez l'engagement de l'artisan de paix que je vais maintenant vous lire en guise de conclusion. Donc un engagement face à la résolution de conflits de façon biblique. Comme les gens sont réconciliés avec Dieu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous croyons que nous sommes appelés à répondre aux conflits d'une manière remarquablement différente de celle utilisée par le monde pour gérer les conflits. Nous croyons aussi que les conflits fournissent des opportunités pour glorifier Dieu, pour servir les autres et pour grandir afin d'être comme Christ. Donc, en réponse à l'amour de Dieu et en s'appuyant sur sa grâce, nous nous engageons à répondre aux conflits en respectant les principes suivants. Premièrement, notre fondement, la rédemption en Jésus-Christ. Le fondement sur lequel reposent toutes nos actions dans les relations selon Dieu, c'est la rédemption en Jésus-Christ. Le contenu de l'évangile de Jésus-Christ, c'est le poignet relié au corps vivant qui donne toute sa force et sa dextérité à la main de l'artisan de paix. Ensuite, lorsque nous sommes conscients de la grandeur, de la merveille de l'évangile, nous cherchons à vivre chaque instant de manière à glorifier notre Créateur rédempteur. La question dans notre tête, même lorsque le conflit est présent, sera « Est-ce que ce que je vais faire ou dire glorifie Dieu ?» Ou iPad, si vous voulez, c'est le R1, « Rendre gloire à Dieu ». Ensuite, retirer l'apôtre. Lorsque nous réalisons que Dieu fait miséricorde à ceux qui confessent leurs péchés, notre propre justice est balayée. Nous admettons et nous nous repentons de nos fautes pour bénéficier de l'Évangile. Redresser avec douceur. Quand nous acceptons et que nous bénéficions de la manière dont l'Évangile nous montre et sanctionne notre péché, nous serons incités à corriger et à restaurer dans la douceur ceux qui ont mal agi en désirant qu'ils bénéficient aussi de l'Évangile de Jésus-Christ. Reconstruire par le pardon. Lorsque nous devenons conscients de la manière dont Dieu nous pardonne, notre cœur est rempli de reconnaissance envers celui qui pourvoit au pardon pour la reconstruction. Et ce que nous avons reçu, nous le donnons par la foi, heureux d'être libérés du poids du non-pardon et joyeux d'apporter la délivrance d'une dette à notre offenseur. Et enfin, rechercher la réconciliation, la persévérance de Dieu. La persévérance de Dieu et de son action bienveillante, sans aucune action mauvaise à notre égard, est notre exemple. Tant qu'il y a la vie, nous chercherons à appliquer l'Évangile dans toutes nos relations, car nous croyons qu'à Dieu, rien n'est impossible et que nous sommes appelés à rester fidèles dans notre attitude de recherche de réconciliation. Par la grâce de Dieu, nous appliquerons ces principes comme le fondement de la gérance des conflits, réalisant qu'ils sont une mission et non un accident. Nous nous rappellerons que le succès selon la vision de Dieu ne dépend pas des résultats spécifiques, mais d'une obéissance confiante et dépendante. Et nous prierons que notre service en tant qu'artisan de paix apporte la louange à notre Seigneur et amène les autres à reconnaître son amour infini. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, à la fin de cette série sur l'artisan de paix, plusieurs sentiments peuvent être dans nos cœurs. Mais j'aimerais te prier que le sentiment de d'admiration de l'œuvre de l'artisan de paix divin qu'est Jésus-Christ, puisse Seigneur rayonner, puisse nous pousser à vivre. Oui, nous désirons vivre cela, nous désirons que l'Évangile touche tous les aspects de nos cœurs et particulièrement toutes nos relations. Nous désirons, Seigneur, que lorsqu'il y a conflit, nous en sommes tellement déçus, c'est vrai, mais nous sommes conscients aussi que dans ce monde, il y a des conflits. Un monde déchu où le péché est là, où je suis pécheur. Eh bien, Seigneur, nous te prions que ces conflits auxquels nous pouvons faire face avec ton évangile deviennent des moyens de grâce. Que ceux qui autour de nous voient la manière dont nous gérons les conflits puissent être attirés à celui qui nous motive, à celui qui nous donne la force, à celui qui est la source de notre pardon, à celui qui est la source de notre motivation à nous repentir. Que Seigneur, tous ceux qui peuvent nous voir vivre comme artisans de paix ne soient pas attirés par nous, mais par toi. Que Christ soit le centre, Seigneur, de ce que nous désirons vivre. Et que nous, Seigneur, cherchions à chaque instant non pas à être des super artisans de paix qui montrent aux autres comment faire, mais que nous soyons, Seigneur, des humbles artisans de paix, cherchant auprès de toi la grâce et la force pour vivre ces différentes étapes utiles que ta parole de Dieu nous donne de vivre, pour régler des situations et nous réjouir de ton œuvre. Permets, Seigneur, que nous vivions cela déjà dans les petits conflits, que nous ne les négligions pas. Et qu'ainsi, Seigneur, dans les plus grands conflits, tu nous donnes la grâce, même s'il faut cheminer plus longuement, de vivre cela aussi pour ta gloire. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.